size.
Kérine, aujourd'hui, tu as décidé de nous faire peur en nous parlant de l'Halloween, si je comprends bien.
Ben oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est notre dernière émission avant Halloween. Je me dis qu'on aura besoin d'histoires pour les parties du 31. Et donc, pour refaire notre stock, j'ai ressorti les vieilles histoires de mon grand-père. mon grand-père s'appelle Google, hein, pour les intimes. et donc, ce sont des anecdotes mystérieuses et non résolues. Donc je vous propose de vous les raconter et puis je vous propose qu'on essaye de deviner ensemble des fins possibles. Ça vous dit ?
Oui, c'est parfait.
Ok. Donc la première, justement, vu que c'est bientôt les vacances, je vous emmène en bateau. Petite escapade, donc ça s'appelle le mystère de Ouran-Médan. Donc en juin 1947, le navire SS Ouran-Médan émet un signal de détresse qui dit « Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts, allongés dans la salle des cartes et sur le pont. Peut-être que toute l'équipe est morte. » Bonne ambiance, hein, je sais.
Oui, 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 non, c'est parfait.
Le signal est suivi d'un code morse indéchiffrable et qui se termine par « je meurs ». Une fois arrivé sur le bateau allemand, l'équipage du Silver Star, donc le navire commercial qui a capté le signal de détresse, découvre avec effroi que tout l'équipage est mort, y compris celui qui a envoyé le message. Un peu plus tard, une fumée épaisse s'échappe du navire avant qu'il n'explose. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé sur le SS de Ouran-Médan.
Ben... qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'imagine que ça doit être quelqu'un de l'équipage, peut-être même celui qui a envoyé le message, là, qui est décidé de... je sais pas. Il n'aimait pas ses compatriotes et puis qui a décidé de décimer tout le monde.
Peut-être. Mais je précise que je n'ai pas la solution.
Ouais, non, mais c'est ça.
J'allais dire un empoisonnement, peut-être, mais peut-être. Vu qu'il y a eu de la fumée...
c'est ça.
Ouais. Ça aurait saboté, peut-être, là, le navire, je ne sais pas, mais 1947... hein. Ça fait peur.
Tu te dis, je sais pas, moi je m'étais dit peut-être c'est le capitaine du bateau qui a fait cramer le bateau en voulant allumer son petit cigare du soir, tu vois.
Ah, peut-être, oui, c'était peut-être au charbon. Hein. On sait pas, mais ok.
Ouais,
on va y penser deux fois avant de faire une croisière.
C'est ça, peut-être une attaque de pirates.
Ouais.
Du coup, après l'eau, le feu. La deuxième histoire, c'est le mystère de Benedo Supino. Donc les capacités étranges du jeune Benedo Supino attirent l'attention des médias dans le début des années 1980, puisqu'à l'âge de seulement 10 ans, ce jeune Italien découvre qu'il peut enflammer les objets en les tenant dans ses mains ou en les regardant. Il découvre cette capacité alors qu'il est assis dans la salle d'attente d'un dentiste. La bande dessinée qu'il lit prend soudainement feu sans raison apparente. Donc petit tip, si vous voyez un petit garçon dans la salle d'attente, prochaine fois, watch out. Plutôt, le jeune garçon avait également enflammé son oreiller et coupé l'électricité de la maison alors qu'il dormait tranquillement dans son lit. En plus, il aurait aussi enflammé un petit objet en plastique dans les mains de son oncle en le regardant tout simplement. Après avoir consulté un parapsychologue, je ne sais pas ce que c'est un parapsychologue.
Un psychologue du paranormal, probablement.
Peut-être, ça ferait du sens. Du nom de Demetrico Croce, il aurait finalement appris à contrôler son pouvoir. En revanche, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé l'origine des flammes créées par Benedo jusqu'à présent.
Mais est-ce qu'il est encore vivant, Benedo?
C'est
les années 80, c'est,
ouais,
c'est pas
vrai
si loin.
Que c'est possible. Non, c'est vrai, t'as raison.
Faudrait...
le contacter.
Ouais, ouais. On va essayer de le recevoir en entrevue la semaine prochaine, mais c'est ça, c'est un peu étrange. Comment est-ce qu'il peut contrôler ça? Je sais pas.
C'est
comme la combustion spontanée. Mais sur les autres.
J'avoue que mes théories étaient un petit peu plus paranormales. J'ai eu du mal à trouver des... Du coup, j'avais plusieurs théories. Par exemple, il avait des super pouvoirs. C'était Tom G. Duzor 2.
Ouais.
Ou alors, c'était un magicien hypnotiseur, donc le fils de Mesmer, peut-être.
Ah,
ou
peut-être,
son ancêtre, ce serait peut-être plus logique, je sais pas.
Ouais.
voir le petit un génie qui a inventé les lentilles laser, aka Dark Vador 2.
Peut-être.
Qui se promenait constamment avec une loupe et puis un rayon de soleil, je sais pas trop, mais il enflammait tout ce qui passait. Peut-être. Ouais, il faudrait... C'est quoi son nom déjà?
C'est Benedo Supino. Comme ça, t'as le contact.
Est-ce que tu sais où ça se passait?
Je sais juste en Italie, mais j'ai pas ville.
En Italie, hein.
Mais je peux faire mes recherches.
C'est pour ça qu'il faut pas y aller en Italie, là. C'est l'en Barbara.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, la dernière histoire, là, c'est plus parce que bientôt l'hiver arrive. Je me suis dit, il faudrait trouver une histoire un peu dans le thème. Donc là, c'est le mystère du col Dyatlov. Pardon, c'est du russe. Encore bilingue russe. Donc là, ce mystère-là se produit en 1959. C'est l'histoire d'un groupe de randonneurs qui s'aventurent dans le massif de l'Oural. La nuit du 1er au 2 février 1959, les 9 randonneurs sont décédés lors de l'expédition dans d'étranges circonstances. 3 semaines plus tard, les secours retrouvent leur tente éventrée de l'intérieur. Et quant aux corps, ils sont retrouvés à plusieurs mètres de là, sans vêtements pour la plupart. Ceux-ci ne présentaient pas de signes de lutte. Cependant, certains d'entre eux présentaient d'importantes fractures, tandis que d'autres n'avaient plus de langue et d'yeux.
Oh,
voilà. Des loups. Des loups.
Des loups ou entre eux même. Je sais pas s'ils étaient en mode survie, peut-être ils se sont mangés entre eux, mais bon, c'est un peu glauque.
En fait, ce qui est bizarre, c'est le pas de signe de lutte, tu vois.
C'est vrai.
C'est ça qui.
Mais c'est quoi un signe de lutte?
Ben c'est dans le sens, tu sais, si tu te fais attaquer par des voleurs, ben le légiste il va retrouver que t'as voulu battre. Ouais. Pas
Mais je comprends le concept, mais c'est quoi dans le fond un signe de lutte?
Dans ce contexte,
il y avait du sang partout, j'imagine. Oui. Ben quoi que c'était peut-être un peu gelé là, mais peut-être le Yeti ou je sais pas, dans l'Oural, hein, c'est des Russes. Hein. On sait jamais ce qui peut arriver là-bas. Là,
on va pas aller en Russie non plus.
C'est ça. Ouais. Et là par contre, il y avait peut-être une réponse, c'est pour ça que je termine par ceci. Donc là, plus tard, une expertise psychotechnique sur 4 victimes retrouvées tardivement a dévoilé que ces dernières présentaient des niveaux élevés de radiation, probablement dû à la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à la manipulation de substances radioactives. Et à l'époque, le médecin légiste a finalement déclaré que les randonneurs étaient décédés pour des raisons inconnues. Et là, plus récemment, le parquet général de Russie a annoncé la réouverture de l'enquête en début de l'année 2019. Et plus tard, en juillet, les autorités ont déclaré que la mort des 9 victimes était due à une avalanche combinée à une mauvaise visibilité.
Oh, moi, j'y crois pas.
Ouais, non. Les Russes sont bons pour camoufler des évidences. Là, donc, non, moi, je n'achète pas. Mais peut-être la radioactivité, ils aiment bien jouer avec ça. Il y a des villes en Russie qui fonctionnent. Même, je regardais, c'est ça, je vous l'ai dit tantôt, j'aime ça me promener en Russie, puis dans les villages, puis ces trucs-là. Puis, il y a une ville dans le nord de la Sibérie là, qui fonctionne avec un réacteur nucléaire sous l'eau, en fait, comme sur un navire, mais sous l'eau. En tout cas, c'est vraiment... ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon pour personne. C'est dangereux pour tout le monde. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose dans l'Oural qui a contaminé ces jeunes-là. Ils ont peut-être rendu fous. On sait pas. Hein? Puis après ça, ils se mangent. Je sais pas. C'est intéressant. Donc, ça donne froid dans le dos un peu. C'est parfait pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Je sais pas si vous allez courir l'Halloween, vous. Non? Oui, avez-vous des déguisements?
Mais c'est dans les projets, justement. Ouais. Demain, on va faire un peu de shopping. Si on trouve un costume, ce serait pas mal. Sinon, ce sera le fantôme, tu sais, genre juste le drap avec deux trous. Ça passe aussi.
Un classique. Ou le maquillage de décadence, le film d'horreur, là, je sais pas ça. Ben nous, on appelle ça décadence ici. Donc, peut-être ça, c'est le déguisement d'Halloween ou le Joker aussi. Là, ça, c'est les...
À mon avis, il y aura beaucoup de Squid Game.
Ouais, Squid Game. Mais ça prend quand même. Il faut trouver le matériel. Là, puis je suis sûr qu'il y a une pénurie partout là, de ces habits-là. Donc, pensez-y bien. On va retourner dans Casa de Papel avant. Donc, merci beaucoup, Erin, pour ta chronique. On va pouvoir aller se. Dégourdir un peu le sang avec Vendoux et Drôle de rêve. Et on revient vers 17h15 pour l'entrevue avec j'oublie toujours, Pierre-Paul. Voilà. Donc, restez des nôtres.